Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Alors vous allez me tuer pour qu'on sache pas la vérité.
Continue.
Vous savez très bien de quoi je parle.
Oui. Maintenant je le sais.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à un cinéaste que j'adore et qui est un cinéaste qui est en fin de compte assez peu connu, qui s'appelle Sergio Solima. On a trouvé l'occasion de vous causer de Sergio Solima, tout simplement parce qu'il y a un livre là, qui sort aux éditions Rififi, qui s'appelle Sergio Solima, le cinéma au couteau. Et il est signé Vincent Jourdan, et Vincent Jourdan a accepté notre invitation pour venir donc causer de son ouvrage et globalement de l'ensemble de la vie, de la carrière, de la filmographie de Sergio Solima. D'ailleurs, on remercie l'équipe de Culture Prohibée, remercie Steve Bellentani pour son aide sur cette émission. Et puis tout de suite, on va entrer en communication avec Vincent Jourdan via cet instrument magique qu'est le téléphone. Vincent Jourdan au micro de Culture Prohibée. Pourquoi justement un livre sur Sergio Solima?
Peut-être tout simplement parce qu'il n'y en avait pas, effectivement. Non, sur Sergio Solima en particulier, c'est vrai qu'après Corbucci, je m'étais posé un peu la question sur qui je pouvais travailler, des gens qui m'intéressaient. Il se trouve que je connaissais, bon, comme beaucoup, les westerns, les trois westerns qu'il a réalisés, qui sont sortis en France en leur temps. Et j'ai creusé en fait un petit peu son travail et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus passionnant en fait que ce qu'on connaît. Et le déclencheur, ça a été peut-être aussi, parce que finalement il a fait assez peu de longs métrages, mais il a aussi une œuvre télévisuelle et dans cette œuvre, il y a Sandokan, qui est un feuilleton des années 70 qui avait eu un énorme succès et que je me rappelais avoir vu quand j'étais gamin. Et je l'ai revu pour voir ce que ça valait et ça m'a convaincu que d'abord c'était très très bien. C'était toujours très très bien et qu'il y avait sans doute quelque chose à faire. Et à partir de là, j'ai creusé un peu le personnage et j'ai trouvé que c'était un homme assez fascinant en tant que cinéaste, évidemment. Et donc, il y avait vraiment matière à évoquer beaucoup de choses à travers lui.
Alors, c'est vrai que c'est un cinéaste et un homme fascinant. Bon, moi, j'ai eu le plaisir de le rencontrer. On en avait échangé, d'ailleurs. De discuter longuement avec lui, en plus, dans un cadre très convivial. C'était sympathique au Festival du film d'Amiens, puisque j'étais le seul à l'interviewer. Donc, comme ça, on a passé une bonne après-midi ensemble. D'ailleurs, il m'avait raconté une anecdote, parce que le livre retrace toute sa vie. Il va vraiment en détail, là, toute la vie de Solima. Il m'avait raconté cette histoire qui, pour lui, était la source des sujets de ses films les plus personnels. C'est-à-dire que lorsqu'il était très jeune, il sortait avec la fille d'un général fasciste et elle l'avait. Et lui, il était partisan. Tu en parles dans le livre. Lui, il était antifasciste et tout ça. Et il a été dénoncé par cette jeune femme à son père. Et lui, il me disait qu'en fait, pour lui, l'antagonisme qui y a dans la plupart de ces grands films entre les deux personnages centraux, et en particulier là, par exemple, celui entre Guillaume Maria Volonté et Thomas Milian dans Faccia a Faccia, le dernier face à face, lui vient de là, lui vient de cette jeunesse quand même tumultueuse.
Oui, tout à fait. Il fait partie de cette génération. Moi, c'est ça que je trouve aussi fascinant. Bon, au-delà de l'aspect cinématographique, c'est toute une génération qui a grandi sous le fascisme et qui, pendant la guerre, en fonction de leur âge, à quelque chose près, ont dû faire des choix et se sont retrouvés face à une situation qu'on leur envie pas, évidemment, où il a fallu. C'était une situation de guerre civile quasiment, hein, en 43. Entre les fascistes, les antifascistes et aussi ceux qui étaient plutôt royalistes. Le pays était, c'était un sacré traumatisme. On a du mal à se rendre compte, même si en France, la génération qu'il a vécu aussi la collaboration, etc., et la résistance. Mais chez eux, c'était encore plus aigu. Et voilà, il s'est retrouvé dans une situation, par exemple, c'est cette anecdote donc, qui l'a beaucoup marqué, quelqu'un de très proche qui pouvait faire un autre choix que lui et qu'il avait littéralement trahi. Il raconte aussi, il a eu un de ses amis, parce que lui, il était partisan. Alors c'est marrant comment il raconte ça, parce qu'il était partisan, mais c'était pas un combattant vraiment. D'ailleurs, quand il raconte son service militaire en Yougoslavie ou en Grèce, je sais plus, il dit que heureusement qu'ils l'ont pas gardé, parce que sinon ils auraient perdu la guerre rien qu'à cause de lui. Il n'était pas doué là-dessus, mais il faisait des opérations de transmission de messages, il faisait des choses en fait, mais pas militaire. Voilà, c'est pas quelqu'un qui s'est battu littéralement. Ça ne change rien au risque qu'il pouvait prendre. Mais il a eu aussi, par contre, des amis qui ont été arrêtés et un notamment qui a été exécuté par les Allemands. Ça, c'est des choses qui l'ont complètement traumatisé et qui ont. C'est pour ça que c'était intéressant, Sandokan, par rapport au western et face à face dont tu parlais. C'est-à-dire que, quelles que soient les œuvres, on retrouve toujours cette idée du choix et des choix un peu cornéliens, douloureux à devoir faire à un moment, la question de la trahison. Et ça, c'est vraiment fascinant de voir à quel point ça a irrigué toute son œuvre, qui ne relevait pas a priori d'une œuvre spécialement intellectuelle. C'était vraiment une œuvre populaire de cinéma de genre. Et le fait que finalement les deux soient ensemble, moi, ça m'a beaucoup touché.
Ah, c'est vrai que c'est un cinéaste. Bon, on y reviendra tout à l'heure quand on parlera des films. Il y a aussi la figure du juste. Enfin, il y a plein de choses qui reviennent, dont on sent qu'elles viennent de cette période. D'ailleurs, tu avais écrit un livre sur Sergio Corbucci, dont on a parlé aussi dans cette émission. Mm-hmm. C'est pareil, lui, ça a été un. Il a joué du tambour. Il n'était pas du côté des partisans. Il était enfant. Il a joué du tambour pour Mussolini. Enfin, il était enfant. Hein, évidemment, il n'y pouvait rien. Mais c'est quelque chose. C'est vrai que c'est une génération qui a été particulièrement marquée. Je pense aussi à Dino Rizzi, qui était médecin de guerre, tout ça. Une génération qui a été particulièrement marquée par le conflit. Sans doute, ce qui explique aussi que leur cinéma soit si particulier. Tu le disais toi-même, c'est-à-dire que c'est à la fois un cinéma populaire. Mais c'est aussi un cinéma intellectuellement exigeant, en fait. C'est un cinéma, c'est des vrais auteurs, en fait.
Oui, complètement. Ça, c'est ça qui est intéressant. Et c'est quelque chose qui n'était pas évident, notamment pour les Français, parce que nous, on avait séparé. Enfin, nous, la France, la critique française à l'époque de ce cinéma avait vraiment fait des catégories. Ceux qui faisaient du western, comme Sergio Leone, hein, y compris Corbucci, Solima, tous ces gens-là, même Bava ou Cotta Fari, c'était des gens qui étaient mal considérés ou pas considérés du tout. Contrairement à ce qu'on avait défini comme le cinéma moderne, comme Fellini, Visconti, Antonioni, Pasolini, etc. On avait un peu séparé. Alors qu'en fait, moi, je m'étais rendu compte que, petit à petit, que c'était pas aussi simple que ça, qu'il y avait vraiment des auteurs dans le cinéma populaire, et surtout qu'il y avait une vraie fluidité à l'intérieur. Ils se connaissaient tous et eux ne faisaient pas du tout cette distinction, y compris d'ailleurs en Italie. Ça, c'est la première chose que je trouvais intéressante. Et du coup, oui, depuis, peut-être une trentaine d'années, on a beaucoup réévalué ces cinéastes-là. Je pense à Bava, Corbucci, bon, Leone, ça s'est fait quasiment dans la foulée, mais il faut se rappeler comment ses premiers films ont été accueillis en France. C'est juste pas possible de faire des films pareils. Et puis bon, petit à petit, ça s'est arrangé. Et donc oui, ils ont tous cette double approche, c'est-à-dire que d'auteurs, mais aussi de cinéastes populaires qui faisaient des films commerciaux. Hein. Pas oublier que la Dolce Vita, par exemple, ou Le Guépard, sont des films qui étaient aussi d'énormes succès publics, avec des stars, des budgets, etc., et qui séduisaient un public très large. Aujourd'hui, ça fait rêver. Et oui, bon, pour en revenir à cette période, donc, il les a tous marqués. Comme je disais, ils sont tous nés à peu près dans les années 20. Des fois, il suffisait de quelques années pour que les choses changent. C'est-à-dire que, par exemple, Corbucci, lui, il était un poil plus jeune. Donc, du coup, il n'est pas parti à l'armée, comme Solima, par exemple. Et il avait 18 ans quand, en 44. Donc, il n'a pas vraiment, il s'est pas investi. En tant que partisan, il n'a pas eu ce genre de problème, mais il a vécu la période, il a vécu le déchirement, en fait, et la violence aussi de cette période. Solima, c'est un peu différent, parce que lui, il était donc un peu plus vieux, et donc son expérience est un peu différente. Et si on prend Fellini, qui est aussi contemporain, ou Elio Petri, c'est encore autre chose à chaque fois. Voilà. Mais globalement, ils ont tous un traumatisme, en fait, qui a irrigué leur cinéma par la suite.
Et puis ce qui les réunit aussi, c'est qu'ils sont tous passés par, tu en parles un peu dans ton livre, donc Sergio Solima, le cinéma au couteau, sorti aux éditions Fifi, par le Centro Sperimentale, qui est une école incroyable, qui a été fondée par Mussolini, hein, qui avait très vite compris le pouvoir de l'image et du cinéma, comme beaucoup de dictateurs d'ailleurs. Hein, c'est une école formidable, en fait, où d'ailleurs a sévi, entre autres, un certain Eugenio Bava. C'est une école démente, ce centre de formation.
Oui, c'est ça aussi. C'était à travers Solima, ça permettait aussi de parler un peu de tout ça, bon, qui pour nous est un peu éloigné. Mais c'est une école. Quand il avait inauguré, c'est lui qui l'a voulu. Hein, c'était son fils à Mussolini qui pilotait un peu le cinéma, et il avait mis des hommes de confiance parce qu'il disait là, le cinéma est l'arme la plus forte. Alors, je crois qu'il avait piqué ça à Staline d'ailleurs, ou à Lénine. Et donc voilà, il faut pas oublier, c'est paradoxal, mais c'est Mussolini qui a impulsé Cinecittà, qui a impulsé le Festival de Venise, qui a impulsé cette école, qui est le modèle de la Fénice aujourd'hui en France, si on veut, hein, des grandes écoles de cinéma. Donc il était assez précurseur. Et en même temps, c'est là qu'on retrouvait, alors ce qui était assez fascinant et que j'ai voulu raconter, parce que je trouve que c'est assez incroyable quand on y pense, c'est que les gens qui étaient là-dedans aimaient tellement le cinéma qu'ils faisaient passer la politique derrière. Et on retrouvait à l'intérieur de l'école des professeurs qui étaient antifascistes, qui s'entendaient très bien avec le directeur qui, lui, était un pur produit du fascisme. C'est assez fascinant. Et on a donc des gens comme Solima qui ont été élèves, qui avait quand même cette sensibilité antifasciste. Et on retrouvait, alors ils avaient comme prof, oui, il y avait le père de Bava, il y avait aussi Alessandro Blasetti, il y avait Mario Bonnard, enfin il y avait des gens qui étaient des cinéastes reconnus à l'époque, qui enseignaient. Et on voit, Solima l'a raconté plus tard dans cette série, alors qui est malheureusement pas sortie en France, qui s'appelle Les Ragazzi di Celluloid, Les Enfants du Celluloid, où il raconte tout ça. Ça aussi, c'était assez incroyable. Et il montre la complexité, en fait, de cette école, parce que, par exemple, Rossellini en était très proche, et c'est avec des gens du Centro Sperimentale et qu'il a monté Rome ville ouverte, qui est le film emblématique du néo-réalisme et de la libération italienne, alors que un an ou deux avant, il travaillait avec Vittorio Mussolini sur des films qui étaient des films de propagande. C'est assez incroyable.
Écoutez Culture Prohibée. Dans le livre, moi, j'ai appris quelque chose sur Sergio Solima. C'est que son entrée dans le cinéma, elle se fait, alors on a parlé de son parcours, de sa formation scolaire et de ça, mais elle se fait via la critique de cinéma, et en particulier via un livre de référence sur le cinéma américain, du coup que je cherche mais qui est introuvable, hein, faut bien le dire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce livre qui visiblement a marqué son époque en Italie?
Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que donc il a fait l'école. Alors la guerre a évidemment beaucoup perturbé la suite des événements. Il est revenu, il traînait un peu autour de l'école, il devait donner des coups de main, ce genre de choses. Et en fait, juste après la guerre, c'était une période donc très compliquée. Il a essayé de rentrer dans le cinéma, comme beaucoup d'autres, son parcours a été un petit peu chaotique. Mais c'est vrai de beaucoup de ses contemporains. Et il n'a pas vraiment réussi à percer. Donc, il a percé à la fois en écrivant, donc, notamment pour la revue qui était éditée par l'école, une revue de cinéma qui existe toujours, d'ailleurs, qui s'appelle Bianco e Nero. Il y a quelques articles qu'on peut trouver encore en ligne. Et puis, donc, il a eu l'idée de se lancer. Alors, comme chez lui aussi, il y a ça, c'est une dimension très intéressante, qu'il était fasciné par le grand cinéma américain. C'est quelque chose qui l'a beaucoup profondément marqué. Il admirait énormément certains cinéastes comme Chaplin ou John Ford, donc ça ne m'a finalement pas étonné. Et donc, il s'est lancé dans l'aventure d'un bouquin qui s'appelle donc Il cinema in USA, le cinéma aux États-Unis, qui était le premier livre qui avait jamais été écrit en Italie sur le sujet, et donc qui parle de 50 ans de cinéma américain de manière assez exhaustive. C'est assez impressionnant, le travail de recherche. Moi, le livre, j'ai trouvé. Alors, on peut le trouver d'occasion. Moi, je l'ai trouvé, je l'ai lu, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Donc, voilà, si on cherche un peu sur eBay ou sur des sites, sur certains sites comme ça qui ont des ramifications avec l'Italie, le livre peut se trouver d'occasion. Ça n'a pas été le plus facile, mais bon, moi, je l'ai trouvé. Et voilà, donc ce bouquin est vraiment une analyse très fouillée. Et quand on pense, bon, à l'époque, quand il a écrit en 47-48, il n'y avait pas toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui. En plus, la situation était un peu complète, était toujours assez difficile. Et il avait réussi, en fait, à avoir un stock de films vraiment très impressionnant. Et son analyse est vraiment, vraiment remarquable, je trouve, par rapport à... était toujours très valable par rapport à aujourd'hui, sur cette période. Et donc, ce bouquin l'a un peu aidé en termes de réputation, mais ça n'a pas été un succès du tout. Puis il a été discrètement retiré, bon, pour des raisons politiques, parce que c'était un bouquin écrit avec une approche quasiment marxiste, on va dire, très à gauche. Et comme on est vite rentré dans la période de la guerre froide, ça, voilà, l'éditeur l'a mis sous le coude, il a fini par le mettre sous le coude. Mais bon, après il a continué par le scénario, et finalement c'est le théâtre, en fait, qui lui a permis d'abord de vivre et de revenir par la bande au cinéma.
D'ailleurs, tu l'écris dans ton livre, tu cites Solima qui dit « Le théâtre était ma femme, mais le cinéma était ma maîtresse ». C'est d'ailleurs ce qui fait une différence, je trouve, entre Sergio Solima et les deux autres Sergio, parce qu'on a toujours parlé des trois Sergio, hein, pour le western, même si Solima a rayonné au-delà du western. Mais cet attachement au théâtre par rapport à Corbucci et Leone. Il a, comme on dit aujourd'hui, un background différent, voilà.
Oui, tout à fait. Léon, lui, a fait un gros... Ce qu'il a amené... Les deux autres Sergio n'ont pas fait l'école. Léon, ce qu'il a fait, c'est qu'il a... En fait, il a eu un gros boulot d'assistant. Il était devenu une espèce de super assistant qui était très recherché, effectivement. Il a travaillé sur toutes les grosses productions américaines des années 50. C'est comme ça, en fait, qu'il a percé, qu'il s'est formé. Il n'a pas été scénariste, il n'écrivait pas. C'était un super assistant. Et Corbucci, ça a été différent. Lui, il a eu la chance, comme souvent dans sa vie, et il est arrivé au cinéma quasiment par la réalisation très très vite, en fait. Il était très peu assistant, très peu scénariste. Il avait 25 ans, je crois, quand il a fait son premier film. Donc il a démarré très vite par la réalisation de mélodrames.
Alors, il le dit d'ailleurs, il a été très peu assistant, c'est assez drôle, ça rappelle aussi l'anecdote que tu disais tout à l'heure sur ses qualités au pugilat pour un militaire. Lui dit « Comme assistant, j'étais le pire depuis la création du cinéma ». C'est ce qu'on peut lire dans le livre.
Oui, il a toujours beaucoup le sens de la nuance. Moi, j'adorais. Moi, je t'envie beaucoup de l'avoir rencontré, parce que je pense que ça va être un type assez fascinant à écouter. Moi, j'ai eu toutes les interviews filmées qui étaient disponibles. Il y en a eu plusieurs en bonus, hein, où des fois il s'excite un petit peu. Il est très passionné, voilà, très passionné. Et effectivement, il est comme assistant. Il a été l'assistant de Corbucci. Mais voilà, il estimait qu'il n'était pas bon du tout là-dedans. C'est pour ça qu'il est parti au théâtre, où il a monté une troupe, où il a, pendant plus de 10 ans, il a fait vraiment un gros travail de théâtre. Ça a été sa grande formation. Et après, donc, le scénario.
Oui, le scénario. Alors, il y a deux étapes. Il est scénariste sur une vingtaine de films dans les années 50-60. D'ailleurs, il va lui-même scénariser ses propres films. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est un vrai auteur. Mais il y a aussi une aventure du côté du documentaire avec un autre réalisateur oublié, alors qui n'est pas du niveau de Solima, mais quand même un réalisateur que j'aime bien, qui est intéressant et qui est oublié aussi, c'est Alberto De Martino. Et ensemble, c'est marrant, cette idée de travailler en duo, ce qui ne va pas marcher hein, d'ailleurs. Hein. Ils font deux documentaires, donc Turismo Calpolice qui est sur l'autostop et Intervista al Cervello qui est sur un asile psy et ses traitements. Là, je serais curieux de savoir si tu as vu au moins le deuxième, qui m'a l'air, c'est un sujet quand même assez novateur, assez intéressant. Est-ce que tu as réussi à avoir accès à ces documentaires ?
Alors le premier, oui, Turismo Calpolice, je l'ai vu, c'est un film c'est un film assez mignon, on va dire, c'est assez court, hein, ça fait moins d'un quart d'heure. Malheureusement, non, Intervista al Cervello, j'ai pas réussi à le voir, j'aurais été très curieux de voir ce que ça donnait. Mais bon, c'est des documentaires des années 50, donc je sais même pas comment l'autre il est ressorti, ça c'est des miracles d'Internet. Après, au niveau de la forme, il n'est pas, il y a rien d'exceptionnel. Hein. C'est sur les jeunes qui font. Il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il montre en fait des jeunes qui se baladent en fait Turismo Calpolice, et c'est des gens qui font l'autostop à l'époque et qui vont dans les auberges de jeunesse, ce genre de choses. Et c'est un film donc qui a été fait au tout début des années 50, donc 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui montre justement des jeunes touristes de plusieurs nationalités, notamment allemands. Et donc c'est une espèce de réconciliation. Enfin moi j'ai vu un peu ça. C'est-à-dire c'est aussi une manière de dire ben voilà la jeunesse aujourd'hui ça y est elle a tourné la page, elle part sur autre chose et ils vont se redécouvrir en fait à travers ce fameux tourisme de proximité si on veut. Voilà. Ouais. Je trouve ça assez touchant. Bon, c'est assez marrant. Mais effectivement ça n'a pas marché. C'était des choses qui étaient diffusées sans doute en première partie de programme.
Oui, il est scénariste, donc il est scénariste d'un paquet de films. Est-ce que, qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette période scénariste, avant même qu'il scénarise ses films, qu'il réalise ses films est-ce qu'il y a des scénarios qui t'ont plus marqué que d'autres dans son travail ?
Il a surtout travaillé dans deux registres. Le Musicarelle, ce sont des films musicaux. Donc c'est assez amusant, c'est un peu désuet. Bon, c'est la musique italienne populaire des années 50. C'est des espèces de comédies musicales, mais pas vraiment sur le modèle hollywoodien. C'est plus des suites de numéros, si on veut. Avec un petit peu d'humour, parce que c'était un peu ce qu'il faisait au théâtre, hein. Il a fait ça des revues, des résistes, hein. Donc il fait à la fois des sketchs, des extraits de pièces et des numéros musicaux. Et c'est un peu ça, c'est pour ça aussi qu'on l'a rappelé au cinéma, c'est parce qu'il était à l'aise avec ça et il a commencé à écrire ce genre de choses. Après, moi, ceux que j'ai bien aimés, c'est les péplums auxquels il a participé. Je trouve que ils sont plutôt bien écrits. Et il y en a certains où on a déjà, il y a des petites notations en fait, hein, où on retrouve ses préoccupations par rapport notamment à l'histoire de la guerre. Parce que le péplum, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que je pense que si ça a tellement bien marché en Italie, c'est que c'était une métaphore sur ce qui s'était passé 10-15 ans avant, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale en Italie. C'est une manière d'exorciser ça. C'était très souvent des histoires de populations qui étaient oppressées par un tyran, souvent venu de l'étranger, ou alors qui avaient de guerre civile, de situations de guerre civile. Et le héros, qui d'ailleurs souvent était interprété par un acteur qui venait des États-Unis, comme il n'y a pas de hasard, qui venait et qui les libérait. Donc il y avait un côté très manichéen, il y avait les bons étaient très bons, les méchants très méchants. Mais il y avait ces situations, on voit souvent dans ces films des villages qui sont rasés, des gens qui sont exécutés, des massacres. Et ça renvoie directement à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.
Écoutez Culture Prohibée spéciale Sergio Solima. Première mise en scène pour le grand écran, L'amore difficile, avec l'épisode oui. Les données, qui est un marivaudage, alors qui nous permet de passer quelques minutes en compagnie de la belle Catherine Spack. Tu rappelles d'ailleurs. Tu rappelles dans le livre à quel point d'ailleurs Catherine Spack, elle a incarné effectivement une certaine modernité. Et moi, je me rappelle de son rôle. De rôle qu'elle a occupé chez Damiani, chez Argento, où elle était une femme moderne. Enfin, elle incarnait c'est une femme qui dominait les hommes dans Le Chat à neuf queues, c'est flagrant. Elle a incarné une part de modernité quand même, cette actrice.
Ah, tout à fait. Moi, je suis un très grand fan de Catherine Spack. Elle est arrivée, elle avait 20 ans, hein, et elle a immédiatement percé avec des personnages de jeunes femmes très libres. qui prenait en charge leur sexualité. En France, peut-être son rôle le plus connu dans ce registre-là, c'est quand elle joue la fille de Gassman dans Le Fanfaron. Mais elle a joué beaucoup d'autres films où elle est carrément la vedette, qui sont assez, que moi je trouve vraiment vraiment très réussis et voilà très modernes par rapport au personnage féminin. Alors elle, c'était pas la seule à l'époque, mais elle a vraiment incarné ça. En plus, elle chantait, elle avait un côté très très séduisant globalement. À la fois par son jeu, bon, elle a son physique aussi très moderne, sa manière de s'habiller, sa manière de chanter, etc., et sa manière de mener sa vie. Et dans le film avec qu'elle a fait avec Solima, donc où elle joue donc une jeune femme qui a une liaison avec un homme beaucoup plus âgé, donc qui est joué par Enrico Maria Salerno, qui est vraiment pas à la hauteur en fait de ce qu'elle représente. Et qui va se méprendre, qui va comprendre en fait justement qu'il n'est pas à sa place par rapport à elle. Et elle est tout à fait étonnante et elle est telle qu'on l'imagine à cette époque-là, à la fois très sensuelle, très volontaire et avec une pointe de fragilité derrière. Je trouve que c'est un sketch assez remarquable pour démarrer en fait. Hein. C'est la première vraie mise en scène de Solima en fiction.
Oui, puis je parle de ce personnage féminin parce que bon, c'est souligné dans ton livre, hein, Sergio Solima, Le cinéma au couteau, donc paru aux éditions Rififi. Parce qu'après, il y a quelque chose d'important. Solima, après, va se tourner vers l'Eurospy, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Eurospy, qui est ce genre de film donc européen, mais beaucoup italien, beaucoup des coproductions aussi parfois avec l'Espagne, où on faisait des sous-James Bond, en fait, avec un côté latin plus poussé. Et les siens sont plutôt bons. D'ailleurs, j'ai pu les voir grâce à Jean-Pierre Dionnet, qui les avait diffusé dans Cinéma de quartier. Il y a Agent 3S3, Passeport pour l'enfer, et Agent 3S3, Massacre au soleil. Ça s'invente pas, hein, des titres pareils. films de 65 et de 66. Et c'est des films très bondiens. Hein, voilà. Sauf que, dedans, les femmes tiennent un rôle, enfin une plus grande place que dans les... Alors, c'est-à-dire une des caractéristiques de l'Eurospy. Hein. Je crois qu'à un moment, tu parles aussi de Plus féroce que les mâles, qui est un autre Eurospy qui est connu aussi. Mais ils tiennent des places importantes. Ce n'est pas si fréquent que ça, en fait, dans ce type de film à l'époque.
Oui, il y a une place assez différente. Il y a aussi Opération Lady Chaplin qui donne une place prépondérante aux femmes. Il y a des vraies méchantes aussi. Par rapport à James Bond, c'est quand même des films qui prennent un peu de la distance. Alors, il y a le fait qu'il y a beaucoup d'ironie en fait dans ces films-là. Souvent, c'est des films qui se prennent pas trop au sérieux. Je n'ai pas vu, j'en connais quasiment aucun qui est vraiment qui est la noirceur des premiers Bonds. Où l'humour en fait est venu quand même plus progressivement. Et il y a chez les Italiens, il y a eu, alors peut-être pour se distinguer, il y a eu plein de choses assez médiocres, mais ceux qui sont réussis, alors soit ils sont réussis plastiquement, il y a eu des metteurs en scène et des directeurs de la photo qui étaient vraiment compétents, et donc qui ont fait des choses assez originales. Moi j'aime bien ce côté formel aussi qu'ils essayaient dans le cinéma de genre. Et puis voilà, donc ils font partie sur des idées un peu novatrices, comme le fait de mettre les femmes à une autre place. Alors chez Solima, il y avait un truc qui était marrant, c'est que il se trouve que bon, parmi les nombreuses choses qui l'intéressaient, il y avait les arts martiaux. Et il était un des premiers à développer les arts martiaux, notamment dans ces films-là, où le protagoniste fait du karaté. Et il a des femmes qui sont vraiment combattantes. Et moi, le plus intéressant, alors les deux 3S3 sont vraiment agréables à voir. Il y a beaucoup de choses qui sont très bien dedans. Mais le troisième, un certain Monsieur Bingo avec Stewart Granger, et je le trouve vraiment étonnant, à la fois sur la forme et sur le fond. C'est-à-dire que là, ça serait carrément un anti-James Bond. Ce serait un James Bond qui se rendrait compte à quel point il est sa manière d'agir est perverse. C'est un personnage voilà, qui se rend compte que la violence qu'il exerce, elle a vraiment des conséquences. Et il a du mal vraiment à le supporter. Et je trouve que ça, c'est une analyse qu'on a quasiment rarement, enfin qu'on n'a jamais dans les films d'espionnage traditionnels. On l'a dans les films d'espionnage à John le Carré, par exemple, ou des choses comme ça, où les personnages ont des dilemmes de moraux, mais sinon, c'est jamais le cas. Voilà, dans les derniers films avec Daniel Craig, on a poussé un peu la psychologie du personnage. Dans ses retranchements, mais un film comme Un certain Monsieur Bingo, c'est déjà un peu ça, quoi. Un personnage qui prend conscience de ses actes et qui se rend compte que c'est pas terrible, quoi, ce qu'il fait.
Il y a des choses, de toute façon, dans ces Eurospies qui sont singuliers par rapport à d'autres dans le travail de Solima. Il y a aussi, on peut y voir les exactions d'un pouvoir dictatorial de manière assez crue quand même. C'est pas caché, quoi.
Oui, aussi. Je pense que c'était sa sensibilité politique. Solima, il s'est jamais caché de ça. Il avait une vraie, un vrai intérêt pour ces sujets et une vraie empathie en fait pour ce qui se passait dans les années 60. Bon, faut rappeler que c'est une période notamment, c'est la post-décolonisation. Il y a les séquelles de la guerre d'Algérie, mais il y en a d'autres. Et puis il y a en Amérique du Sud, il y a beaucoup de coups d'État, bon, tout ce qu'on connaît au Brésil, au Nicaragua, au Chili, plus tard au début des années 70. Et ça, il en parle. Quand 3S3 va dans un régime dictatorial sud-américain, je pense qu'il y a des péripéties en fait qui sont directement inspirées de l'actualité.
Et puis, tu le disais à l'instant, c'est sa sensibilité politique à Solima, va arriver par la suite le premier grand film de Solima, son premier chef-d'œuvre, qui va marquer l'histoire du western, mais l'histoire du cinéma tout court, parce qu'aujourd'hui, c'est des films qui sont remis à leur place, à leur juste place. Et ce film, à l'époque, Solima m'avait dit, en fait, je tenais à mettre en scène, dans l'histoire du cinéma, le premier héros du tiers-monde. Et ce premier héros du tiers-monde, ça va être Cuccio, qu'on va retrouver dans Colorado, la Reza de Conti, qui est une histoire assez simple, c'est-à-dire que ce Cuccio, c'est un peone, c'est un Mexicain. Il invente aussi la figure du Mexicain peone au cinéma, qui va revenir après dans des dizaines de westerns italiens. Un peu hableur, un peu truqueur, mais en même temps, un type assez droit, en fin de compte, et un type qui est accusé d'un crime horrible, mais qu'en fait, il n'a pas commis. Et c'est Lee Van Cleef qui est un chasseur de primes, qui est chargé de traquer ce péoné. Et petit à petit, va se nouer entre eux dans cette traque qui a des côtés truculents, mais aussi dramatiques, va se nouer entre eux une sorte de respect mutuel, d'amitié. Et petit à petit, Lee Van Cleef va découvrir, par le prisme de la lutte des classes, puisqu'à un moment, il lui dit, de toute façon, moi, je suis forcément coupable, je suis un pauvre Mexicain, voilà. Enfin, je ne dis pas exactement comme ça, mais c'est comme ça qu'il s'exprime dans le film. Et c'est en plus l'idée de l'antagonisme avec ses... Alors, il y a tout, il y a aussi l'impérialisme, il y a tout ça, parce qu'il y a un autre personnage. Enfin, bon, bref, je ne développe pas trop pour que les gens qui n'ont pas vu le film ne puissent prendre plaisir en le regardant. Mais c'est vraiment le premier film très important de Solima, et c'est le premier film avec un héros du tiers-monde tel qu'il le voulait, avec un propos humaniste, on retrouve l'idée de la lutte des classes quand même, qui est très très forte, quoi. Et puis cette idée géniale que Cuccio, il est tellement pauvre qu'il n'a même pas de flingue, il a des couteaux, quoi. Donc c'est...
Voilà, c'est un truc emblématique, oui. Et puis en fait, c'est l'arme des pauvres, il le dit, ça aussi, Solima l'explique très bien, il se bat avec un couteau parce que c'est l'arme des pauvres. Oui, la grande nouveauté de ce film, c'est que c'est la première fois, sauf erreur de ma part, qu'un héros mexicain, ou en tout cas du tiers-monde, comme on disait à l'époque, est joué par un acteur qui en vient lui aussi. Thomas Millán étant cubain, c'était tout à fait exceptionnel. Jusqu'à présent, bon, il y avait eu des films, comme je pensais évidemment aux Zapata d'Elia Kazan, où on avait donc des héros mexicains, il y en a déjà eu plusieurs, il y avait eu le Viva Villa aussi de Conway et Howard Hawks, mais c'était joué par des acteurs occidentaux, américains d'ailleurs généralement, et même dans les premiers westerns, dans les westerns italiens, ceux de Leon, c'est Gian Maria Volonté qui joue les Mexicains. Là, il va prendre Thomas Millán, qui apporte quelque chose d'une authenticité peut-être plus importante. Et c'est vrai que c'est le premier, on a souvent... Et en fait, on mesure peut-être mal aujourd'hui l'impact que ça a eu de montrer... de montrer les choses de cette manière-là. Parce que souvent, on dit, voilà, il y a eu le premier héros venu de hors Occident, qui est devenu une superstar en Occident, c'est Bruce Lee, qui était donc chinois. Mais il y a eu Thomas Millán avant. Et il y aura après Kabir Bedi aussi, donc quand il va faire Sandokan. C'est très intéressant parce que c'est exactement la même démarche. C'est, je veux bien faire adapter ses romans, mais je veux un héros qui soit authentique. Et donc il va aller chercher un acteur en Inde. Et là, c'était pareil, et puis ça s'est bien passé avec Thomas Mignan, puisqu'ils ont fait 3 films ensemble. Et ça correspondait tout à fait à ce qu'ils cherchaient. Et c'était assez révolutionnaire, même si peut-être sur le coup, on ne l'a pas entièrement mesuré. Mais ce que j'avais remarqué, c'était que dans les années 60, c'était aussi un cinéma qui s'exportait beaucoup en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique. Et je pense que le public était très sensible en fait à ça, de pas avoir un comédien occidental qui aurait été maquillé, même s'il était bon, c'est pas la question, mais quelque chose voilà qui sonnerait plus juste. Et ça, je pense que c'était vraiment révolutionnaire pour l'époque. En plus, le film a une mise en scène vraiment extrêmement élégante, je trouve. Et c'est ce qui le distingue un peu de soit de Corbucci, soit de Léon, c'est qu'il a c'est son amour du cinéma classique américain fait qu'il a développé un type de mise en scène un peu différent en fait de ses collègues qui lui a permis de trouver sa voie.
Écoutez Vincent Jourdan, auteur de Sergio Solima, Le cinéma au couteau, paru aux éditions Rififi, au micro de Culture Prohibée. Cet amour du western classique américain, en fin de compte, dans ses sujets, il est très latin, c'est un réalisateur quasi marxiste, on peut le dire, mais dans son traitement, il est très classique en fait de l'image, dans son traitement de l'image, Sergio Solima.
Oui, moi j'avais été frappé quand j'avais découvert Colorado, c'est justement par le fait qu'il y a assez peu de ce côté baroque hein, qu'on aime bien chez Léon ou chez Corbucci, voire un peu quasiment surréaliste ou je pense à Django par exemple. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus coulé. Alors c'est marrant, je ne sais pas si tu en avais parlé, mais moi je trouve qu'il y avait des liens avec au niveau notamment de Colorado avec Anthony Mann. Qui est un très grand metteur en scène américain, qui aujourd'hui commence à être un peu oublié, malheureusement. Mais moi, je me souviens qu'il y a l'ouverture de Colorado, par exemple, m'avait vraiment fait penser au western d'Anthony Mann. Et ce rapport au paysage dont tu parlais, pour composer, justement, il y a effectivement le côté fordien. Moi, je le trouverais plutôt dans l'humanisme, dans la dimension humaniste, en fait, très importante, et dans cette faculté de passer de scènes qui sont plutôt drôles à des scènes qui sont tragiques. Ça, c'est un truc très fordien pour moi. Mais d'Anthony Mann, il y a cette espèce de sécheresse, il y a le rapport au paysage, et il y a une certaine manière voilà, de nous faire rentrer dedans que je trouve assez remarquable. Je pense qu'il connaissait d'Anthony Mann, évidemment, et je sais pas si c'est, effectivement il n'en a jamais parlé.
Alors, il ne nous en avait pas parlé, enfin, il m'en avait pas parlé à l'époque. Après, il est clair que de toute façon, vu qu'en plus il connaissait très bien le cinéma américain, forcément il devait connaître les films d'Anthony Mann, il était un immense metteur en scène. Il y avait aussi, alors c'était aussi un formidable directeur d'acteur, hein. À l'époque on lui avait parlé de Lee Van Cleef, il nous expliquait Lee Van Cleef, du moment qu'il avait bu ses bières le matin, c'était bon, on était tranquille. De toute façon, il avait un registre de jeu, il était placide en fait, et il le faisait très bien. Et puis, et Thomas Mignan, c'était autre chose. C'était un exubérant, c'était un type un peu dingue, qui d'ailleurs vient du tiers-monde, parce qu'il venait de Cuba, mais qui lui venait d'une famille, c'est rappelé dans ton livre, hein, Sergio Solima, le cinéma au couteau, là, il venait d'une famille aisée, lui, par contre, il vient de l'acteur studio,
oui, oui.
C'est pas du tout un... Enfin, voilà, il vient pas d'une famille de gauchistes cubains, quoi, voilà.
Pas du tout. Non, son père était d'ailleurs militaire et il était, c'est quoi, c'est Baptiste. Hein, il était du côté, enfin, il était anticastriste. Et ils sont partis aux États-Unis, c'est justement à cause de la Révolution en 58. Et c'est comme ça que Millian après s'est retrouvé à New York. Il a fait l'Actor Studio, comme tu le rappelles. Oui, non, il venait pas de là. Après, c'est juste le fait qu'il était. Enfin, il y en a eu d'autres. Je pense à Chelo Alonso. On l'appelait la bombe cubaine, qui a joué dans Saludo Sombre. Qui elle aussi avait quitté le pays.
Et qui faisait la femme d'ailleurs de Thomas Milian dans
Saludo
Sombre. Après, il y a pour moi, il y a son chef-d'œuvre, enfin son chef-d'œuvre, il y en a quelques-uns quand même là dans ses films, mais son immense chef-d'œuvre, pour moi, c'est un de mes films préférés. En fait, je le regarde au moins une fois par an. Il est au-delà, moi j'adore Ford, j'adore Mann par exemple, mais il est au-delà des Leone, il est au-delà de tout ça. C'est Faccia a Faccia, le dernier face-à-face, dans lequel, alors je parlais de sa direction d'acteur, là il nous avait raconté des trucs incroyables, parce qu'effectivement il y a Gian Maria Volonté qui fait un instituteur tuberculeux, un type plutôt raisonnable et frustré sexuellement aussi, c'est très intéressant, on en reparlera, qui rencontre un bandit qui lui est un inconscient à ciel ouvert, qui est incarné par Thomas Milian, qui est le chef de la Horde Sauvage, mais qui ressemble plus à une sorte de communauté anar, en fait, d'ailleurs, ça, cette communauté. Et il a utilisé, il m'avait expliqué à l'époque, le réel antagonisme entre les deux acteurs. Il ne pouvait pas saquer, visiblement. Et donc, Gian Maria Volonté, type très cérébral, très sérieux. Milian, très exubérant, très fêtard. Voilà, bah, tout ce qu'on sait sur Milian, ça ne s'en est jamais caché. Et du coup, il a utilisé cet antagonisme-là, qu'il a lui-même, d'ailleurs, alimenté pour créer ces tensions qu'on voit dans le film entre les deux. Et ça donne un film incroyable avec cette inversion des rôles, cette sorte d'idée de la contamination dont tu parles dans ton livre, qui est que le type qui est un type de bien devient contaminé par le mal parce qu'il se dit avec mon intelligence, qu'est-ce que je pourrais faire dans le domaine du mal, je pourrais être extraordinaire. Et ce type qui était vraiment du côté du mal, lui se dit, bon, bah voilà, en fait, je suis quand même un salaud. À un moment, il y a une scène avec un enfant et tout, ça le fait énormément réfléchir. Oui, voilà, et petit à petit, il bascule, peut-être pas du côté du bien, mais en tout cas, dans ce qu'il a de meilleur à l'intérieur de lui-même, quoi. C'est fascinant, ce film, quand même.
Ah, c'est un film magnifique, moi je suis d'accord, c'est vraiment son chef-d'œuvre, c'est là où il s'est le mieux exprimé, je pense, sur ses thématiques, ce qui le travaillait le plus, où il a été le plus clair. Et après, le film, encore une fois, est très très beau, toutes les scènes de poursuite dans le désert, il y a plein de choses, plein de scènes vraiment incroyables en termes de mise en scène, il y a une beauté, bon, la musique de Morricone, tout ça, enfin, tout est parfait dans ce film, c'est sûrement un des plus grands westerns italiens. Pour un western tout court d'ailleurs, je trouve. Et puis oui, il y a alors la métaphore avec le fascisme, il l'avait utilisé, ben, notamment quand le personnage joué par Volonté change complètement, enfin se rend compte de ce qu'il est capable de faire. Il a des discours qui sont littéralement inspirés des discours du fascisme. Faut se rappeler, alors, et notamment, je crois que Soliman l'a raconté aussi, ça, c'est que il a demandé à Gian Maria Volonté de s'inspirer de Mussolini directement pour son jeu dans certaines scènes. Il faut se rappeler que Mussolini, c'est 25 ou 26, je ne sais plus quand il y a eu l'assassinat du député socialiste qui avait fait un bruit énorme. Il avait été à la chambre des députés, enfin, ce qu'ils avaient comme chambre de députés, et il avait dit qu'en fait, ils assumaient la violence, en fait. Le fascisme, c'est ça, hein, c'est considérer que la violence est un moyen politique. Et voilà, et tout ça, c'est montré de manière magnifique, en fait, dans ce film. Avec la façon dont il prend l'ascendant, en fait, sur le peuple, hein, entre guillemets, de cette fameuse communauté, et qu'il arrive à la soumettre, en fait, à sa volonté. Parce que c'est un intellectuel, c'est le pouvoir un peu redoutable des intellectuels. Je pense que Soliman, en plus, par rapport à son discours, il était aussi très lucide sur ce qui s'est passé aussi dans le bloc de l'Est, parce que c'était le même phénomène, finalement, des gens qui, à un moment, pensaient que toute n'importe quelle violence était justifiable pour faire valoir leur position. Et ça, c'est le propre de toutes les dictatures.
Et puis, il y a aussi quelque chose qui est au cœur de ces deux westerns. Hein. Bon, il y a plein de choses, hein, tu l'as dit. Hein. Il y a le fascisme, la soif de pouvoir, le mal, le sexisme qui est abordé aussi. Mais il y a aussi les frustrations sexuelles qui sont au cœur de ces deux westerns. Mais clairement, c'est-à-dire, bon, dans le premier film, il est question de pédophilie. Dans le deuxième film, il est question d'une homosexualité refoulée qui va être symbolisé par un moment une scène de pugilat suivie d'une scène de viol, ce qu'on peut appeler un viol, qui c'est particulièrement moderne comme propos, en fait, le propos de Solima.
Oui, c'est un élément assez, assez flagrant. Bah, dans Nan Colorado, il y a ce personnage qui, en fait, voilà, a des pulsions, qui est le fils, oui, c'est le fils du gros propriétaire, qui a des pulsions et qui est couvert. C'est vrai que ça parle encore aujourd'hui, hein, cette idée que les puissants peuvent aussi se couvrir certains agissements parce qu'ils sont puissants et parce qu'ils peuvent se le permettre. Ouais, ça, je trouve que ça résonne avec notre époque. Et dans l'autre, il y a effectivement le côté répression sexuelle et comme tu dis, voilà, c'est cette frustration qui va éclater parce qu'ils peuvent pas être, ils peuvent pas s'assumer, en fait. D'ailleurs, le personnage de Volonté, voilà, il a, au début, on le voit, il est tout pâle, il est tuberculeux, on lui dit qu'il est tuberculeux, mais on voit aussi, enfin, il a le visage blafard, hein, dans la première partie, et il a une espèce d'amoureuse dont on voit bien qu'en fait qu'elle lui plaît pas, quoi. Parce que voilà, c'est des choses qu'il ne peut pas s'avouer. Il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas s'avouer, et ça va passer notamment par la dimension sexuelle. Et c'est pour ça que le film est vraiment très riche, parce que les personnages ont toutes ces facettes différentes et les choses sont jamais appuyées aussi. Hein. Il y a ça qui est intéressant, c'est que tout passe, mais c'est jamais appuyé. Et en même temps, c'est aussi un film d'aventure, un film de suspense. Enfin, ce sont des films voilà, avec un mouvement qui est assez formidable. Et ça, on retrouve, alors sur un mode plus léger, c'est aussi le cas de Saludo Sombre, hein, cette dimension sexuelle, puisque voilà, il est cette fois-ci Cuccio, il est avec, on nous le présente avec une espèce de fiancée qui va tout prix l'épouser, et lui, en fait, il la fuit, il rencontre d'autres personnages, notamment une femme de l'armée du salut qui est assez savoureuse, en tant que personnage, hein. Et qui aussi va se libérer, entre guillemets, au contact du péon.
Et d'ailleurs, masculin, féminin, il y a aussi un type de personnage qu'on retrouve dans ces westerns, c'est le personnage du juste. Il y a toujours un juste dans les films de Solima. Il y a toujours un personnage qui est capable de voir, enfin dans ses grands films les plus personnels, la bonté et l'humanité, même chez les personnes les plus viles. Par exemple, là, dans Faccia a Faccia, c'est le personnage de William Berger, Siringo,
oui,
qui est capable de voir, en fait, que... un homme peut changer, qu'on a le droit à la rédemption, au pardon, quoi. C'est des personnages assez forts, en fait, et c'est très fordien, par contre, ça, pour le coup.
Oui, voilà, je parlais tout à l'heure des dimensions humanistes, on la retrouve dans des personnages comme celui-là, et d'ailleurs, William Berger, qui est un de ses acteurs préférés, il l'a retrouvé, il joue un des professeurs dans la fameuse mini-série, là, où il raconte sa jeunesse sous le fascisme, et c'est justement un professeur antifasciste qui enseigne dans le fameux Centro Experimental, et c'est un personnage magnifique, hein, dans cette série-là. Il y a à chaque fois, il y a Philippe Leroy aussi dans Sandokan qui est un peu une espèce de témoin moral, en fait, de ces histoires à chaque fois. Il y a les personnages qui changent, et puis il y a les personnages qui s'enfoncent, il y a les personnages qui trouvent une espèce de rédemption, et il y a toujours une espèce de témoin, un troisième larron qui est un témoin et qui va aider souvent d'ailleurs à la prise de conscience. C'est le cas de William Berger dans Face à Face.
Écoutez Culture Prohibée spéciale Sergio Solima. On a un peu parlé des westerns, on n'a plus beaucoup de temps, alors je vais aller vite. Parce qu'après, il y a toute une partie polar aussi, polar et giallo, c'est-à-dire qu'il va faire, le très clinique La Cité de la Violence avec Charles Bronson, un film de 70, qui a un exercice de style complètement dingue, hein, sans doute avec Le Flingueur de Winner, le meilleur polar avec Bronson. C'est presque un film abstrait, aussi sur une histoire d'amour tragique. Il va faire aussi Revolver, La Poursuite Implacable, qui est l'un des chefs-d'œuvre du Poliziesco, mais c'est surtout un film qui parle de manière populaire de la stratégie de la tension. Quand même, le sujet, il est assez costaud. J'ai d'ailleurs découvert dans ton livre qu'il avait failli embaucher Johnny, je le savais, mais Eddie Mitchell, je le savais pas. Au final, ça n'a pas été le cas. Et puis, il y a ce giallo, Il Diabolo nel Cervello, qui est très bon, qui est excellent, avec l'acteur de 2001, l'Odyssée de l'espace, Carduli, film de 72, avec Stefania Sandrelli, qui est un film sur le paraître, la bourgeoisie, les non-dits, une histoire d'amour tragique aussi, et qui est un film, pour le coup, on le trouve sur le net, mais qui est tombé dans l'oubli, quoi.
Oui, parce que ça a pas marché du tout. Revolver a eu de la chance dans son malheur, puisque c'est un film aussi qui a été un échec complet à sa sortie, parce qu'il a été sacrifié par le producteur qui avait eu plein de problèmes avec, à l'époque, il faisait aussi Ludwig, Conti, qui a été aussi un échec. Bref. Et donc celui-là, ça a pas du tout marché. C'est dommage parce que alors c'est aussi un film un peu à part. On parlait de son classicisme, c'est-à-dire que c'est un plus qu'un giallo, c'est une sorte de thriller hitchcockien un petit peu, avec des accents buñuelien par rapport notamment à la question de la bourgeoisie, les non-dits et compagnie. Mais voilà, il y a vraiment ce côté hitchcockien. C'est un film, c'est pas un film sanglant, c'est pas un film, c'est pas un film qui est là pour faire peur ou pour impressionner. C'est plus, c'est plus un thriller hitchcockien, je sais pas, comme Rebecca ou des choses comme ça un petit peu. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup aussi. J'aimerais bien qu'il soit réédité parce que c'est vrai qu'actuellement il n'y a pas de copie correcte, ce qui n'est pas le cas pour les deux autres. Et oui, et puis sur La Cité de la Violence, c'est effectivement peut-être son film le plus formel. Il y a vraiment des séquences, la fin, donc qu'on ne racontera pas, ou la séquence d'ouverture avec une poursuite en voiture complètement incroyable qu'il avait tournée aux Canaries, là, dans une île. C'est un film assez étonnant aussi, avec beaucoup de personnages assez complexes aussi, qui sont tous des archétypes du film noir et qui fait sur lequel il joue de beaucoup de variations. C'est un film vraiment remarquable. Dans le style, voilà. Et puis Revolver, donc qui est présenté parfois comme une sorte de remake un petit peu de Colorado, bon, ce qui ne semble pas complètement évident, mais on retrouve effectivement les mêmes thématiques, le duo improbable, c'est aussi un film très politique, beaucoup plus politique que Colorado encore.
Après, tu l'as rappelé depuis tout à l'heure, hein, donc je rappelle ton livre, hein, Sergio Solima, le cinéma au couteau, qui est disponible aux éditions Rififi. Il y a aussi, il y a la télévision. Alors nous, il nous avait expliqué à l'époque, quand je l'avais rencontré, il était très remonté contre Berlusconi. Je pense qu'il a dû l'être jusqu'au bout, hein, qui nous disait que c'était bientôt c'était le grand Satan Berlusconi, hein, que c'était l'appauvrissement de la musique, c'était de sa faute, l'appauvrissement du cinéma, c'était de sa faute, l'appauvrissement de la télé, c'était de sa faute, tout était de sa faute, et je pense qu'il n'avait pas tort. Mais il y a quand même une grande carrière, tu l'as dit toi-même, télévisuelle, et ce personnage incarné par Kabir Bedi de Sandokan. Sandokan qui va donner lieu quand même. Kabir Bedi qui va être dans Le Corsaire Noir pour le cinéma, qui va être dans dans la série Sandokan, dans les Tigres encore et viva, Sandokan a la riscosa en 77, 98 même, Il Figlio di Sandokan. Kabir Bedi, c'est même quelqu'un qui a été faire une oraison funèbre pour Solima. C'était vraiment une amitié très très forte, et il lui en est redevable d'avoir fait de lui une star. Il lui en est redevable éternellement.
Oui, c'était une grande rencontre, visiblement, entre les deux hommes. Et c'est vrai qu'il est magnétique. Il a joué aussi dans Octopussy, à l'époque, le James Bond, qui passe en Inde. J'ai été vraiment bluffé par la qualité du feuilleton. Alors, le film qu'il a fait après, moi, je trouve, par contre, c'est un des plus faibles de Solima. On a su que, il a eu beaucoup de problèmes sur ce film. En fait, tout ce qu'il avait réussi à obtenir de la RAI pour faire le feuilleton, il l'a pas eu pour le film, et donc ça a pas marché, ça a pas fonctionné. Et puis après, alors je pense qu'il en avait parlé de ça avec vous, c'est que il a essayé après de revenir régulièrement à Sandokan, mais en fait ça n'a jamais marché. Il y a une série qui a été finalement reprise par Castellari, mais ça allait pas du tout. Enfin, sa fille m'avait raconté qu'il avait fait un scénario qu'elle trouvait magnifique, et puis pareil, qu'il a jamais pu faire financer. Ça a été un peu les années 90. Je crois qu'il a tenté de revenir à Sandokan. Ça n'a pas marché. Et donc, je pense qu'il en voulait aussi beaucoup à cause de l'évolution de la télé, parce que c'était plus possible de faire un film de la qualité de ce qu'il avait fait, enfin, un téléfilm, une série de la qualité de ce qu'il avait fait en 76.
Oui, parce qu'il a fait des choses pour la télé qui sont... Alors, j'ai pas tout vu, hein, ce qu'il a fait pour la télé, mais il y a des choses qui ont marqué leur époque, comme Uomo contre Uomo. Ce sont des... Ça va au-delà du téléfilm. Ça a vraiment marqué son époque bien au-delà.
Oui, moi, ce que je... Alors, c'est un peu... Bon, on va essayer d'être assez rapide sur cette partie-là, parce que le problème, c'est que voilà, les spectateurs français n'y ont pas accès, à part Sandokan, qui était sorti partout. Mais effectivement, toute son œuvre télévisuelle est vraiment remarquable. Puisqu'à un moment, en fait, ce qu'on sent chez lui, c'est que le cinéma, en fait, c'est plus possible. Enfin, il n'y arrive plus, parce qu'il n'a pas les... Bon, on sait que c'est une période de crise. Hein. Il y a peu de metteurs en scène qui en sont sortis indemnes, notamment dans le cinéma de genre. Et lui, finalement, il a préféré continuer à travailler avec la télé publique, hein, beaucoup la raille. Et j'ai trouvé ça sur la mafia. On parlait du rapport aux femmes. C'est l'histoire d'une femme, en fait, qui va essayer de sortir son frère de l'engrenage de la violence. C'est une mini-série que j'ai trouvé vraiment remarquable. Voilà, moi, tout ce que j'ai pu voir, et évidemment, les garçons de Celluloid, qui pour moi est un chef-d'œuvre de la télévision, c'est des œuvres vraiment superbes qui mériteraient d'être vues. En France, mais bon, qui sont facilement accessibles, mais sans sous-titres. Donc, si on ne parle pas italien, c'est un peu compliqué.
En tout cas, Vincent Jourdan, nous, on te remercie pour cet ouvrage, parce qu'on partage tous les deux cette passion sur Sergio Sonima, qui reste un réalisateur quand même très méconnu, et qui mérite donc d'être largement réhabilité, et ses films méritent d'être vus. Et en discutant ensemble, on a vu qu'il y avait encore quelques films qui n'étaient pas édités quand même, qui mériteraient d'être édités. Donc ton ouvrage s'appelle Sergio Sonima, le cinéma au couteau, donc il est signé Vincent Jourdan, qui était avec nous, et il est paru aux éditions Rififi. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté à la technique de Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne. And the last but not the least pour l'architecture sonore de l'ensemble. Je vais bien sûr parler de notre ami Léo Magnin. Salut les gens, à la prochaine.